parce que comprendre les enjeux du bien-être de nos aînés permet de mieux les accompagner, La Pause Santé interviewe des experts de la santé pour vous, auxiliaires de vie, qui êtes au plus proche des personnes âgées au quotidien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Santé. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la dénutrition chez les personnes âgées, une problématique de santé souvent sous-estimée. Et pour comprendre comment identifier et prévenir ce trouble, j'ai le plaisir d'interviewer pour vous le naturopathe Maxime Bardon. Maxime Bardon, bonjour. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auxiliaires de vie qui nous écoutent ?
Oui, bonjour. Je suis naturopathe du coup sur Bordeaux. J'interviens en fait sur des bilans d'hygiène de vie, de santé en gros, où je passe en revue l'hygiène de vie des personnes qui viennent me voir. Donc ça parle majoritairement de nutrition, d'activité physique, de gestion du stress, parce qu'on est très soumis au stress dans notre société actuelle. Et ça passe aussi par la complémentation parfois, si elle est nécessaire. Mais on utilise vraiment des techniques naturelles pour améliorer la santé et l'hygiène de vie.
Très bien, merci. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler du phénomène de dénutrition chez la personne âgée. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est la dénutrition et aussi quel est votre rôle en tant que naturopathe auprès des personnes âgées qui y sont sujettes ?
Et effectivement, la dénutrition, c'est un sujet qui est très important chez la personne âgée parce que pour différentes raisons, que ce soit la difficulté à faire la cuisine, la motivation, la personne âgée en fait finit par ne pas avoir ses apports indispensables en fait, ses apports énergétiques qu'il lui faudrait pour bien fonctionner. Donc la dénutrition, en gros, pour résumer, c'est des sous-apports nutritionnels, donc nutritionnels, les macronutriments, c'est-à-dire les glucides, les lipides, mais aussi les protéines, et du coup par extension micronutritionnels, c'est-à-dire qu'elle ne récupère plus les vitamines et les minéraux nécessaires à son fonctionnement. Alors en fait, le naturopathe, son rôle, c'est avant tout du conseil. C'est pas du coaching, c'est-à-dire que je vais pas être avec la personne. Par contre, la personne va m'expliquer comment elle vit. Et moi, en fonction, donc dans le cas d'une personne âgée, si elle n'est pas forcément autonome, ça peut être aussi la personne qui s'en occupe, que je peux former, que je peux rencontrer avec la personne âgée, pour la conseiller au mieux à accompagner cette personne. Le rôle du naturopathe, c'est vraiment un rôle d'éducation sur la santé et un rôle de conseil avant tout.
Très bien. Quels sont les premiers signes et symptômes de la dénutrition auxquels les auxiliaires de vie pourraient être vigilantes ? Peut-être que vous, en tant que personne qui peut accompagner sa grand-mère sur ces sujets, vous avez remarqué les premiers signes et symptômes dont elle a été atteinte ?
Oui, bah en fait, dans le cas de ma grand-mère, ça a été vraiment une perte d'autonomie, déjà par faiblesse musculaire et en plus de ça, par perte d'équilibre. Quand je me suis aperçu de ça, en fait, j'ai pas soupçonné directement que c'était dû à la dénutrition. Mais en fait, quand elle m'a expliqué ce qu'elle mangeait et que parfois même elle sautait des repas, j'ai vite compris qu'il lui manquait sans doute quelque chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis occupé de sa nutrition et notamment par l'ajout de poudre de protéines, en fait, parce que les protéines, c'est vraiment le groupe de macronutriments qui est le plus important pour la personne âgée. Les protéines, c'est très important pour la personne âgée parce que c'est la base du renouvellement musculaire et du maintien de la masse musculaire. Et en fait, en vieillissant, les principaux changements en fait dans le corps, c'est la perte musculaire. Et cette perte musculaire, en fait, va causer des problèmes de perte d'autonomie vu qu'on peut plus faire les gestes du quotidien. On a du mal à se lever, on a du mal à faire les petits gestes du quotidien. On perd en précision aussi dans la gestuelle. Donc, on n'arrive plus à attraper les choses ou les choses nous glissent des mains. Voilà, c'est un petit peu l'idée.
Oui, cette perte d'autonomie, c'est une des conséquences importantes de la dénutrition. Est-ce que vous voyez d'autres conséquences sur le plan physique et psychologique chez la personne âgée de ce phénomène ?
Oui, alors la deuxième chose importante, c'est que ça peut déteindre sur le moral aussi, en fait, cette dénutrition. Comme la personne se sent fatiguée, forcément, le mental suit et le mental se fatigue aussi. C'est-à-dire que en voyant qu'elle a moins de capacité, moins d'autonomie, la personne peut se sentir un petit peu déprimée, la personne âgée. Et en plus de ça, elle n'a pas, via son alimentation, ce qui lui permet de fabriquer les neuromédiateurs, notamment la dopamine, qui va la motiver à passer à l'action.
On en a déjà un petit peu parlé, mais je reviens sur cette question parce que je la trouve importante. On entend souvent que quand on vieillit, on a besoin de moins manger et qu'il est normal de perdre du poids avec la vieillesse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce sont des idées reçues et pourquoi c'est important de faire attention à ça ?
En fait, c'est plus une conséquence du vieillissement. si la personne âgée mange moins, c'est parce qu'elle fait moins d'activité physique, c'est parce qu'elle a moins de masse musculaire, encore une fois. Et quand on a moins de masse musculaire, on a moins besoin de manger, on ressent moins le besoin de manger. Et il y a une perte aussi des signaux de satiété avec et des signaux de soif aussi chez la personne âgée. Enfin, c'est difficile à imaginer quand on est plus jeune, mais la personne âgée n'a pas forcément les signaux qui vont lui dire de passer à table. Elle peut être dérégulée sur les horaires, donc je pense qu'un très bon moyen de l'aider, ça va être de vraiment installer une routine avec des heures précises de prise des repas, ou même aménager des plages où elle peut prendre des collations qui seront équilibrées et qui vont aussi participer à ses apports journaliers.
Un conseil intéressant à mettre en pratique, en tout cas quand on est auxiliaire de vie et qu'on accompagne des bénéficiaires au quotidien. Est-ce qu'il y a des obstacles courants à une alimentation variée et équilibrée chez les personnes âgées et qu'on peut peut-être éviter pour prévenir cette dénutrition?
Ah oui, ça rejoint vraiment ce que je disais, cette perte d'autonomie, cette perte de capacité à faire les choses. Et la cuisine, notamment, ça peut être par manque d'envie de faire la cuisine ou par impossibilité de la faire aussi. Et c'est ça la plus grande frontière avec un équilibre nutritionnel, c'est vraiment de faire la cuisine. Et même chez des personnes bien plus jeunes, en fait, les personnes qui ne font pas la cuisine, qui achètent tout préparé, elles ont une nutrition qui est pauvre, qui est très peu variée, avec des apports vitaminiques qui sont faibles, des apports glucidiques qui sont trop élevés, qui dérèglent leur métabolisme. Donc en fait, c'est pas vraiment spécifique à la personne âgée, mais la personne âgée est doublement touchée parce que même si elle le veut, même si elle a cuisiné, même si elle a toujours cuisiné, parfois en fait, elle n'en a plus la possibilité.
Très clair. Quels sont selon vous les réflexes à adopter dans l'assiette pour compenser la baisse d'appétit chez les personnes âgées? Vous nous avez déjà parlé d'un apport en protéines, enfin être vigilant à ça. Est-ce que selon vous il y a d'autres réflexes à adopter pour compenser cette baisse d'appétit?
Alors, quand je parlais d'apport en protéines, je reviens dessus parce que c'est très très important chez les personnes âgées. En fait, on perd la capacité aussi quand on vieillit à bien digérer les protéines. Donc, ce qui peut être vraiment intéressant pour une personne âgée, c'est de prendre de la protéine en poudre. Alors, ça peut être aussi du collagène, hein, du collagène en poudre. Et en fait, qui est une protéine, hein, le collagène. Et en fait, cette poudre, on va pouvoir la mélanger à une compote, à une boisson, à quelque chose. Et en fait, elle va être facilement assimilable par l'organisme sans nécessité d'avoir une bonne capacité de digestion. Donc vraiment, ça, c'est une super technique pour rehausser l'apport en protéines. C'est de passer sur ces protéines en poudre qui sont très, très assimilables.
Ok, très bien. Est-ce que vous voyez d'autres petits réflexes qu'on pourrait conseiller aux auxiliaires de vie qui nous écoutent?
Oui, alors, ça rejoint un petit peu ce que je disais, la collation. La collation, ça va être très intéressant, en fait, pour une personne qui n'a pas faim. Lui créer une collation équilibrée. Alors déjà, une personne âgée, faut lui donner ce qu'elle aime aussi. Ça, c'est important. Parce que parfois, l'alimentation, c'est un des grands plaisirs de la personne âgée. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment privilégié pour elle où il y a certaines personnes qui ont toujours une vie occupée. Il y a autant de personnes âgées que de situations. Mais pour les personnes qui sont un petit peu seules chez elles, bah, le repas, c'est un moment super important. Donc l'idée déjà, c'est de faire peut-être la liste de ce qu'aime la personne et dans tout ça, essayer de créer des collations équilibrées. Alors une collation équilibrée, ça peut être quoi? Ça peut être des oléagineux comme les amandes, les noix, ce genre de choses qui est très important. Ça peut être un carré de chocolat noir aussi, au-dessus de 70%. Ça peut être un fruit de saison, un fruit frais. Ça va être super important. Et ça peut permettre de rajouter aux apports si jamais le repas n'a pas été assez riche. Cette collation, en fait, prise à 11h ou encore mieux vers 16-17h, elle peut participer à ses apports. Et en même temps, la collation qui serait prise à 17h, elle a une autre vertu, c'est qu'elle participe en fait à la détente du soir par un mécanisme aussi hormonal sur les neuromédiateurs du cerveau. Cette collation prise entre 16 et 17 heures, si elle est équilibrée, c'est-à-dire si elle contient un des aliments dont j'ai parlé précédemment, elle va favoriser la production de sérotonine. Et la sérotonine, en fait, c'est le neuromédiateur qui nous relaxe le soir. Et cette même sérotonine, c'est le précurseur de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc, en fait, quand on prépare cette sécrétion, on favorise non seulement la détente le soir, mais en plus le sommeil qui va suivre.
D'accord, donc plein de bienfaits pour ces petites collations. Vous avez parlé des personnes âgées qui prenaient plaisir à manger et pour qui c'était un moment important. Comment est-ce qu'on pourrait redonner le plaisir de manger justement à des personnes âgées qui l'auraient perdu? Est-ce que vous auriez des astuces à nous donner?
Ce qui peut être intéressant aussi pour c'est que les repas soient pris dans un cadre convivial, c'est-à-dire qu'elle ait un peu de compagnie, quoi. Ça peut redonner goût ou qu'un proche vienne cuisiner ou bien même une sortie avec des amis. Essayer de prendre ses repas ailleurs que chez elle aussi, ça peut être intéressant. Bah, si je prends l'exemple de ma grand-mère, dès qu'elle est avec ses amis, qu'elle prend l'apéritif et qu'elle mange des repas à l'extérieur, en fait, elle mange beaucoup mieux, quoi. Alors que chez elle, c'est un petit peu, bon, ça peut être un peu plus monotone pour elle.
Ouais, refaire de ces moments de repas, en fait, des moments conviviaux à partager. Ça peut être même, je pense, enfin même ne serait-ce que cuisiner avec votre bénéficiaire et ensuite partager le repas ensemble. Ça permet aussi de redonner du plaisir autour de tout ça.
Oui, bien sûr, mais après, si les auxiliaires ont la possibilité de le faire, oui, c'est top. C'est un beau cadeau pour les personnes âgées de partager un repas, quoi. Mais après, bon, une personne âgée, c'est une personne qui a vécu, qui a beaucoup à raconter et qui a un petit peu les mêmes besoins qu'une autre personne, quoi.
On a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, enfin vous avez parlé, pardon, de la sensation de soif qui pouvait aussi diminuer. Est-ce que vous auriez des conseils pour s'assurer que les personnes âgées boivent en quantité suffisante? Parce qu'on sait que bien s'hydrater, c'est aussi très important avec l'âge, mais pas que d'ailleurs.
Un conseil très simple à appliquer, ça va être de remplir une bouteille de 1,5 litre et de l'écouler dans la journée. C'est-à-dire que tant que la bouteille n'est pas écoulée, c'est qu'elle n'a pas assez bu.
Oui, ça permet d'avoir un repère, ouais.
Tout simplement, oui.
Faut que je l'applique aussi pour moi, celui-ci.
Oui.
Est-ce qu'il existe des astuces en naturopathie, pardon, que les auxiliaires de vie pourraient intégrer dans leur pratique quotidienne pour soutenir la nutrition de leurs bénéficiaires?
Ce qui est très important pour la personne âgée, c'est de faire aussi de l'activité physique parce que rien qu'une marche, en fait, rien qu'une marche, rien que sortir, prendre l'air, prendre la lumière, quand elle va revenir chez elle, ça peut lui ouvrir l'appétit. Alors que si elle prend son, par exemple, je sais pas, j'imagine si elle prend son petit déjeuner chez elle, qu'elle reste le matin à lire un livre ou à regarder la télé, à midi, elle aura nettement moins envie de manger, quoi. Parce qu'en fait, elle aura l'impression de faire que manger. Et en fait, l'activité physique aussi va en fait, favoriser le métabolisme, ça va augmenter aussi les dépenses énergétiques et ça va lancer le corps aussi dans son fonctionnement énergétique. Donc tout ça va pousser la personne à plus manger.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je suis convaincue que tous ces conseils et astuces pourront aider les auxiliaires de vie qui nous écoutent à mieux prendre en charge la dénutrition chez leurs bénéficiaires. Et merci de nous avoir partagé un petit peu de votre quotidien avec votre grand-mère.
Avec grand plaisir, avec grand plaisir, c'était intéressant. Ça m'a permis de réfléchir aussi moi-même sur tout ce qu'on peut faire pour les personnes âgées, quoi. C'est quand même une grosse question, une grosse problématique de société.
Tout à fait. On essaye de les aider au mieux comme on peut à bien vieillir.
C'est important.
Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et tout de suite sur le site de Petit-Fils. la-pause-petit-fils.com.